Logis fondamental, Père Philippe, 6 mars 1984, Saint-Joseph.
En 72, parce que les deux derniers articles sont intéressants, mais ils ne sont pas directement ce que nous regardons ici. C'est la question des interventions du démon par rapport à la prophétie. Ce serait très intéressant pour les exorcismes. Et c'est la théologie de l'exorcisme, ça, qui nous montre ça. Est-ce que les démons peuvent intervenir ou pas? Et c'est ces deux articles-là qu'il faudrait étudier de très près, voir comment la prophétie peut-elle venir des démons. Jusqu'où les démons peuvent-ils intervenir dans l'ordre des charismes? Vous voyez, c'est la question très très délicate de savoir, est-ce qu'au fond les démons, ce n'est pas des prodiges? Ce n'est pas des miracles, c'est des prodiges. C'est dit dans l'Écriture, du reste, dans l'Apocalypse. La bête de la terre et la bête de la mer et la bête de la terre fait des prodiges extraordinaires. Et les hommes croient que, arrivant même à animer l'image, à faire parler l'image, c'est de l'ordre des prodiges. Et quelquefois à faire parler des hommes. Alors article 6, les prophéties des démons prédisent-ils quelque chose, quelquefois la vérité. L'article précédent, nous l'avions vu, hein, et saint Thomas dit, il s'agit alors de faux prophètes et non pas de vraies prophéties. Ici, les prophètes des démons prédisent-ils quelque chose de vrai? Une glose du livre des Nombres remarque que Balaam était devin par le ministère des démons et l'art de la magie. Il connaissait parfois les réalités futures. Or, il a prédit beaucoup de choses vraies, comme ce qui est rapporté dans les Nombres. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Les prophètes des démons peuvent donc aussi annoncer à l'avance des vérités. Alors, voici la réponse de l'article. Le bien est aux réalités ce que le vrai est à la connaissance. Sicut servet bonum in rebus, ita verum in cognitione. C'est amusant comme analogie pour ceux qui s'intéressent à la chose. Comme le bien se rapporte aux réalités, ainsi le vrai dans la connaissance. Or, parmi les réalités, n'est-il pas impossible d'en rencontrer une qui soit complètement privée de bien? Parmi les réalités, n'est-il pas impossible d'en trouver une qui soit complètement privée de bien? Ainsi, pour la connaissance, il est impossible d'en trouver une qui soit absolument fausse, sans aucun mélange de vérité. Voilà pourquoi saint Bède dit qu'il n'y a pas de fausse doctrine qui n'entremêlent parfois certaines vérités avec l'erreur. C'est le cas des démons. La doctrine dont ils instruisent leurs prophètes contient certaines vérités qui la rendent recevable. Ainsi, l'intelligence verse dans l'erreur par l'apparence de la vérité, comme la volonté se porte au mal par l'apparence de bien. On lit dans saint Jean Chrysostome, il est quelquefois permis au diable de dire vrai, afin que son mensonge se recommande de cette rare vérité. Tant mieux, voilà. Un petit mélange. Il y a quelquefois des vérités qui se mêlent là-dedans. Alors, voyons tout de suite la première objection. On voit très bien, il ne peut pas y avoir d'erreur complète. Jamais. On ne saurait l'admettre. Ok, quelques vérités. Saint Ambroise écrit en effet, toute vérité, qui que ce soit qui la dise, vient de l'Esprit Saint. Or, les prophètes des démons ne parlent pas par l'Esprit Saint, car il n'y a pas d'alliance entre le Christ et Balial, comme on le lit dans la seconde épître aux Corinthiens. Ces prophètes ne peuvent donc jamais prédire la vérité. La réponse. Les prophètes des démons ne parlent pas toujours par une révélation des démons, mais quelquefois par une inspiration divine. C'est bien encore plus difficile. Hein? Les prophètes des démons ne parlent pas toujours par une révélation des démons, mais quelquefois par une inspiration divine. Ainsi en est-il clairement pour Balaam, dont il est dit dans les Nombres que le Seigneur lui a parlé, bien qu'il fût prophète des démons. Car Dieu se sert aussi des méchants pour l'utilité des bons. Quelqu'un qui a une très mauvaise réputation, qu'on sait très bien qu'il est un vieux sorcier, tout d'un coup, Dieu se sert de lui pour donner une vraie prophétie. Tant mieux, pas commode de reconnaître qu'il est un prophète. Hein. De là vient qu'il utilise même les prophètes des démons et leur fait annoncer certaines choses vraies. Soit pour donner plus de crédit à la vérité, puisqu'elle reçoit un témoignage même des adversaires, soit aussi pour y amener plus facilement les hommes lorsqu'ils croient à de tels oracles. C'est une espèce d'infiltration, comme ça, vous voyez, dans le camp adverse. C'est ainsi que même les Sibylles ont fait beaucoup de prédictions vraies sur le Christ. De plus, quand les prophètes des démons reçoivent des démons eux-mêmes leur révélation, même alors, ils prédisent parfois certaines vérités que ces mauvais esprits ont pu connaître, soit en vertu de leur propre nature, dont l'auteur est l'Esprit Saint, soit aussi par une révélation des bons esprits, comme le dit saint Augustin. Si bien que même ce vrai qu'annoncent les démons vient aussi de l'Esprit Saint. Ce qui est difficile, c'est de faire le partage des eaux, vous voyez. Parce que quand vous avez affaire à un prophète du démon, plutôt vous avez l'impression qu'il est prophète du démon, vous n'avez pas du tout envie de recevoir de lui une vérité. Vous prenez vos distances. Eh bien ici, on voit que le prophète des démons peut dire quelque chose de bien, Dieu peut s'en servir, parce que dans tout le contexte dans lequel il est écouté, il y aura une vérité qui s'infiltrera là-dedans. Dieu peut se servir de ses ennemis pour nous éclairer. Alors, deuxième objection. En outre, si les vrais prophètes sont inspirés par un esprit de vérité, les prophètes des démons le sont par un esprit de mensonge. On lit à leur sujet dans le livre des rois, « Je sortirai et je serai un esprit menteur dans la bouche de tous ces prophètes. » Or, on le sait, les prophètes inspirés par l'Esprit Saint n'enseignent jamais l'erreur. Les prophètes des démons n'annoncent donc jamais la vérité. Oui, on renverse la proposition, c'est le contraire, tout simplement. Alors, réponse, le vrai prophète est toujours inspiré par l'esprit de vérité, en qui on ne trouve aucune fausseté. Et voilà pourquoi il n'enseigne jamais l'erreur. Au contraire, le faux prophète n'est pas toujours instruit par l'esprit de mensonge, mais quelquefois aussi par l'esprit de vérité. En outre, cet esprit de mensonge révèle lui-même tantôt la vérité, tantôt l'erreur, comme on vient de le voir. On ne peut pas faire le parallélisme, parce que la vérité demande d'être totale et l'erreur n'est jamais totale. C'est ça que saint Thomas s'appuie. La vérité demande d'être totale. Donc, un prophète qui est inspiré par un esprit de vérité, on lui demande de dire toujours la vérité. Et voilà ce que Saint-Esprit lui demande. Tandis qu'au contraire, un prophète qui était inspiré par l'esprit de mensonge dira de temps en temps quelques vérités. Parce qu'il y a sa nature humaine qui reste bonne. Alors il dira de temps en temps quelques vérités. Et l'Esprit Saint, de temps en temps, se servira même de lui pour, à travers lui, nous dire quelques vérités. Alors, troisième objection. Enfin, saint Jean dit au diable, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Or, en inspirant ses prophètes, le diable ne parle que de son propre fond. Il n'est pas, en effet, établi ministre de Dieu pour annoncer la vérité. Puisque, d'après saint Paul aux Corinthiens, il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Les prophètes des démons ne prédisent donc jamais la vérité. Réponse. Ce qui est propre aux démons, c'est ce qu'ils possèdent par eux-mêmes, à savoir le mensonge et le péché. Mais ce qui se rapporte à leur nature, ils ne le possèdent pas par eux-mêmes. mais ils le tiennent de Dieu. Or, c'est par la vertu de leur propre nature qu'ils annoncent parfois le vrai. Enfin, Dieu se sert aussi bien, se sert aussi des démons pour proclamer la vérité par eux, en leur révélant les mystères divins par l'intermédiaire des anges. C'est évident que Dieu se sert du mal. C'est pour ça que le mal n'est jamais total. Tandis qu'au contraire, lorsque Dieu demande à un prophète d'être prophète, il veut qu'il soit totalement bon. C'est la même chose par rapport à la vérité. Le bien demande d'être intégro, hein, et la vérité aussi. Je crois qu'on peut s'arrêter là et regarder tout de suite la question 173, qui est une question beaucoup plus importante. Question difficile. Venons-en maintenant au mode de connaissance prophétique. Des modos cognitionnistes prophétiques. Vous voyez, c'est là où la question prend toute sa force. Tout ce que nous avons dit jusque maintenant, c'est très bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Voir quel est ce mode. Alors, vous voyez la différence comme traité par rapport à la foi. Cette question du mode de connaissance était dans la foi donnée tout de suite. Ici, question troisième. Il faut se demander pourquoi. Il pose quatre questions. Premièrement, les prophètes voit-il l'essence même de Dieu ? Différence entre la prophétie et la vision béatifique. Les révélations prophétiques se fait-elle, la révélation prophétique se fait-elle par l'influence de certaines images ou idées, ou seulement par celle d'une lumière ? Vous voyez, déjà, on étudie l'humaine glorie, l'humaine prophétique. Requiert-elle toujours l'aliénation des sens ? La prophétie comporte-t-elle toujours la connaissance de ce qui est prophétisé ? Vous vous souvenez, le père Laurentin avait dit quelque chose là-dessus. Hein, je ne sais pas, vous avez oublié, parce qu'au réfectoire, on écoute d'un œil, n'est-ce pas ? C'est ça qu'on oui, parce que l'autre œil, il peut manger sur les carottes. Alors, c'est pour ça qu'on écoute d'un œil. Mais Laurentin avait dit une chose assez curieuse, hein. Il avait dit que nécessairement, il faut être coupé des autres. On va voir la question de Saint-Denis. On va voir si Laurentin a relu le traité de prophétie avant d'écrire quelque chose. Alors, les prophètes voient-ils l'essence même de Dieu ? La vision de l'essence divine ne cessera pas dans la patrie. Or, la prophétie disparaîtra. Comme on le lit dans la première épître aux Corinthiens. La prophétie ne se produit donc pas par la vision de l'essence divine. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de charismatiques. Là, c'est extraordinaire, il n'y aura plus que la vision béatifique. C'est là que c'est important de se rappeler. C'est la grosse vérité du bon sens, vous voyez, c'est ça qu'il faut se dire. Ce que Saint-Thomas dit tout de suite. Alors, il relativise énormément la prophétie. Dans le ciel, il n'y aura plus que la vision béatifique. Alors, la vie contemplative, c'est d'anticiper la vision béatifique. Oui, donc il n'y a pas de charisme. Ça, il faut dire. Tandis que si vous voulez être dans un messianisme temporel, alors là, très bien, vous gardez le charisme avec d'autres, les intensifier. Il ne faut pas les supprimer, mais il faut bien les mettre à leur place. Hein, bien les mettre à leur place. Il faut bien comprendre que les charismes ne sont pas directement orientés vers la vision béatifique. Les charismes, c'est l'utilité pour la communauté. C'est ça que Saint Thomas souligne tout le temps. Il a raison. C'est du côté de la charité fraternelle. Très très bien, pour la charité fraternelle, pour l'utilité de l'exercice de la charité fraternelle. Mais ce n'est pas la contemplation. C'est ce qui fait comprendre, voyez, pourquoi Catherine, c'est ça qu'on ne comprend pas quand on prend les paroles de Sainte Thérèse en disant « Sainte Thérèse ne voulait pas de charisme ». Parce qu'elle était une contemplative et qu'elle avait comme mission de rappeler ce que c'était que la vie contemplative. Et dans la vie contemplative, on dit non, non, non. Parce qu'il faut une rectitude, une purification très très nette. C'est anticipation de la vision béatifique. La prophétie comporte une connaissance divine. Qui est comme éloigné de nous, qui est comme éloigné de nous. Donc, prophetia importat cognitionem divinam ut procul existentem, comme existant de loin. Aussi, lit-on dans l'Épître aux Hébreux à propos des prophètes, c'est de loin qu'ils regardaient. Allongé aspicien. C'est une prospective lointaine. Vous voyez ? Il regarde de loin. Un prophète ne regarde pas ses pieds. Non, il regarde toujours loin. Toujours un regard loin. Un regard qui dépasse. C'est de loin qu'il regardait. Or, ceux qui sont au ciel, dans la béatitude, ne voient pas comme de loin, mais pour ainsi dire de tout près. Selon ce mot du psalmiste, les justes demeureront dans ta face, devant ta face. Ça, c'est très beau. C'est la plus grande intériorité, la vision béatifique. C'est la plus grande intériorité, puisque c'est découvrir celui qui est source même de toute notre vie et de tout nous-mêmes. Donc, c'est pas regarder au loin. La vision béatifique, c'est saisir de l'intérieur la source. Les justes demeureront devant ta face. Vous voyez, habitabunt recti cum vultuo. Les justes habiteront avec ton regard, sous le regard de Dieu, dans le regard de Dieu. C'est dans le regard de Dieu, donc. On est tout proche, dans le regard de Dieu. Il est donc évident que la connaissance prophétique est autre que la connaissance parfaite du ciel. Elle s'en distingue comme l'imparfait du parfait. Et elle cessera lorsque l'autre commencera, ainsi qu'il ressort de la première épître aux Corinthiens. L'imparfait disparaît quand on est parfait. Mais faisons attention, hein, parce que quand vous prenez parfait et imparfait, il y a un très grand danger. Ça se continue. La connaissance imparfaite ici, la connaissance imparfaite de connaissance prophétique est d'un ordre tout à fait différent. C'est pas imparfait qui se prolonge en parfait. Le parfait qui est la vision de Dieu est d'un ordre tout autre. Parce que ce parfait, c'est la grâce sanctifiante elle-même. La grâce sanctifiante, sémène gloriée, hein, semence de gloire. Et donc, ceci relève de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante demande de s'épanouir dans ce qu'on appelle le domaine glorieux. Le domaine glorieux, c'est la vision béatifique. Tandis que la connaissance prophétique, charismatique, ne relève pas directement de la grâce sanctifiante. Ça relève d'un charisme. Oui. Donc faisons attention, parce que quand on dit parfait et imparfait, on pense tout de suite que c'est dans le même genre. Certains, voulant distinguer la connaissance des prophètes de celle des bienheureux, ont prétendu que les prophètes voyaient l'essence divine, qu'ils appellent miroir éternel. Non pas pourtant en tant qu'elle est objet de béatitude, mais en tant qu'elle contient les raisons des événements futurs. Inea rationes futurorum eventum. Or, cela est absolument impossible. Dieu est en effet objet de béatitude, selon son essence même. Saint Augustin le remarque dans ses confessions. Bienheureux celui qui te connaît, même s'il ignore les créatures. Ça, c'est très beau, ce texte de saint Augustin. Beatus est qui te chit, et siam si illa, ides creaturas nescia. Il est heureux celui qui voit Dieu. Il est heureux celui qui connaît Dieu, même s'il ignore les créatures. Autrement dit, là, le point de vue de la vision béatifique, c'est de connaître Dieu. Là, vous voyez toujours, hein, la connaissance contemplative, la vie contemplative, c'est une anticipation de la vision béatifique. Vous voyez ce que vous pouvez tirer de ça. Or, comment pourrait-on voir les raisons des créatures dans l'essence divine même, sans connaître cette essence ? D'autre part, en effet, l'essence divine est la raison de tout ce qui se fait. Or, la raison idéale n'ajoute à l'essence divine qu'un rapport aux créatures. Ça, c'est très curieux. C'est toute la question des idées en Dieu. Comment expliquer les idées en Dieu ? Les idées ne s'ajoutent pas à Dieu comme des petits accidents, vous voyez. Nous, il y a nos concepts qui s'ajoutent comme des petits accidents. Mais en Dieu, les idées ne s'ajoutent pas comme des petits accidents. Les idées sont Dieu lui-même, dans sa propre simplicité, dans la simplicité de sa connaissance. Dieu voit tout à travers son essence. Il nous voit à travers lui. C'est pour ça qu'il nous voit si bien. Il nous voit à travers lui. Et il nous aime à travers lui. Il nous prédestine à travers lui. D'autre part, on connaît d'abord une réalité en soi avant de la connaître par comparaison à autre chose. Ce qui revient ici à connaître Dieu comme objet de béatitude avant de le connaître selon les raisons des choses qui existent en lui. Voilà pourquoi les prophètes ne peuvent pas voir Dieu selon les raisons des créatures sans qu'ils le connaissent comme objet de béatitude. On ne peut pas connaître les raisons des choses en Dieu sans connaître Dieu lui-même, puisque ses idées ne sont pas autre chose que l'essence de Dieu. Vous voyez, si en Dieu, vous imaginez qu'il y a des idées des choses, des réalités existantes. Alors vous pourriez dire, ah voilà, je vais connaître cette idée de Dieu, sans connaître l'essence de Dieu. Je fais une séparation. À ce moment-là, il faudrait que les idées ne soient pas l'essence de Dieu. Si les idées sont l'essence de Dieu, c'est absolument impossible. Je ne peux pas voir les réalités dans les idées de Dieu sans voir l'essence de Dieu. Et c'est la raison que donne Satan, tout simplement. Non, je relis pour que vous voyez bien, parce que ça c'est toute la question de la théologie des idées. Certains, voulant distinguer la connaissance des prophètes de celle des bienheureux, ont prétendu que les prophètes voyaient l'essence divine qu'ils appellent miroir éternel, non pas pourtant en tant qu'elle est objet de béatitude, mais en tant qu'elle contient les raisons des événements futurs. Vous voyez, c'est tout ce qu'on va retrouver en philosophie chez quelqu'un comme Malebranche. C'est exactement ça, c'est ça qui est intéressant. Malebranche dit qu'il connaît tout en Dieu. Il a de la chance. En vous voyant, je vous vois en Dieu. Est-ce que vous êtes beau en Dieu ? Je ne vous regarde pas tel que vous êtes, parce que ce serait beau que vous l'ayez, mais je vous regarde en Dieu. Je vois en Dieu, alors. Et il dit, en vous voyant en Dieu, je vois les idées de Dieu, mais je ne vois pas l'essence de Dieu. C'est ce qu'on a objecté tout de suite à Malebranche. Mais alors, voir toutes les choses en Dieu, c'est voir Dieu. Elle dit, ah non, c'est les idées. Oui. Malebranche, c'est bien après saint Thomas. C'est un ecclésiastique, mais c'est quand même bien après saint Thomas. Ça, c'est un ecclésiastique, un philosophe ecclésiastique. Il ne faut pas l'oublier, Malebranche. Et il a mal compris la différence entre le point de vue, vous voyez, de la vision béatifique et puis voir les choses, les réalités. Or, cela est absolument impossible. Saint Thomas qui détruit Malebranche avant. Malebranche se faisait prophète. Il voyait toutes chose en Dieu. Or, cela est absolument impossible. Dieu est en effet objet de béatitude selon son essence même. Saint Augustin le remarque dans ses confessions. Bienheureux celui qui te connaît, même s'il ignore les créatures. Or, comment pourrait-on voir les raisons des créatures dans l'essence même, dans l'essence divine même, sans connaître cette essence? Je ne peux pas. Il faudrait que les idées soient autre chose que l'essence de Dieu. D'autre part, en effet, l'essence divine est la raison de tout ce qui se fait. Dieu, quand il crée, se contemple. Et c'est en se contemplant que Dieu réalise toute chose. Donc on peut dire que l'essence divine est la raison de tout ce qui se fait. Vous voyez, la phrase est très belle en latin, n'est-ce pas ? Ratio ipsa divina essentia est ratio omnium prefiunt. Donc l'essence divine est la raison de toutes les choses qui se font. Ratio, il faut bien. Autrement, Dieu créerait à l'aveugle. Dieu en se voyant, communique à chaque chose ce qu'il doit communiquer, ce qu'il veut communiquer. Donc l'essence divine est la ratio omnium prefiunt. L'essence divine est la raison de tout ce qui se fait. Or, la raison idéale n'ajoute à l'essence divine qu'un rapport aux créatures. Ratio idealis. Très comme curieux comme expression de Saint Thomas. La ratio idéaliste, non addit supra essentiam divinam, nisi respectum ad creaturas. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ces idées, parce que ça ne peut pas parler des idées. Les idées n'ajoutent rien à l'essence divine. Elles sont des sens divines. Autrement, elles seraient des petits accidents. Il ne peut pas y avoir d'accident en Dieu dans l'être de Dieu. Donc, les idées sont des sens divines, mais elles sont des sens divines en tant que l'essence divine est la raison de toutes les choses créées. Gros exemple. Ratio. C'est le langage curieux. Et c'est très beau, ça. C'est toute la question des idées en Dieu. D'autre part, on connaît d'abord une réelle, donc. D'autre part, en effet, l'essence divine est la raison de tout ce qui se fait. Or, la raison idéale n'ajoute à l'essence divine qu'un rapport aux créatures. Elle ne peut pas ajouter quelque chose. Si elle ajouterait quelque chose à Dieu, ce serait donc un accident. Donc la seule chose qu'elle peut ajouter, c'est cette relation. Qui, du côté de Dieu, est une relation de raison. Forcément. Quand vous dites, par exemple, que Dieu a une idée de vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a une idée de vous. Il faut bien dire que Dieu a une idée de vous. Quand Dieu vous prédestine, il a une idée sur vous. Qu'est-ce que cette idée qu'il a sur vous? C'est son essence. C'est à travers lui qu'il vous voit. Mais alors on parle idée pour montrer cette relation particulière de Dieu à l'égard de la créature. D'autre part, on connaît d'abord une réalité en soi, avant de la connaître par comparaison à autre chose. Ce qui revient ici à connaître Dieu comme objet de béatitude, avant de le connaître selon les raisons des choses qui existent en lui. Voilà pourquoi les prophètes ne peuvent voir Dieu selon les raisons des créatures sans qu'ils le connaissent comme objet de béatitude. Très bien. Il faut donc soutenir que la vision prophétique n'est pas la vision de l'essence divine elle-même. Et ce n'est pas non plus dans cette essence divine que les prophètes contemplent ce qu'ils voient, contre Malebranche. Directement, ça. C'est très curieux. C'est prophétique. Ce n'est pas non plus dans cette essence divine que les prophètes contemplent ce qu'ils voient, mais dans certaines similitudes qu'éclaire la lumière divine. Aussi lit-on dans le pseudo-Denis, au sujet des visions prophétiques, le sage théologien appelle divine la vision produite par la similitude des réalités qui manque de forme corporelle parce que les voyants remontent au plan de la similitude à celui des choses divines. C'est très compliqué de nous, hein, pas commode à comprendre. D'abord, c'est intraduisible souvent. Alors, on donne une traduction qui ordinairement n'est jamais exactement ce qu'il faut. Aussi lit-on dans Denis au sujet des visions prophétiques. Le sage théologien appelle divine la vision produite par la similitude des réalités qui manque de forme corporelle parce que les voyants remontent du plan de la similitude à celui des choses divines. Ce sont ces similitudes éclairées par la lumière divine qui méritent le nom de miroir bien plutôt que l'essence divine. Car dans un miroir se reflètent les images des autres réalités, ce qu'on ne peut dire de Dieu, tandis que cette illumination de l'esprit, par mode prophétique, peut être appelée miroir en tant qu'il se réfère une image de la vérité, de la préscience divine. C'est pourquoi on la nomme miroir éternel, parce qu'elle représente la préscience de Dieu C'est pourquoi on la nomme miroir éternel, parce qu'elle représente la préscience de Dieu qui, dans son éternité, voit toute chose d'une manière présente, comme on l'a établi plus haut. Vous voyez, Dieu seul voit toute chose à travers son essence. Le prophète ne peut pas voir à travers l'essence de Dieu, mais le prophète peut voir les choses à travers certaines similitudes que Dieu crée en lui. C'est comme ça qu'il voit. Grâce à certaines similitudes, Dieu va réaliser en lui des fantasmes nouveaux qui lui permettront de voir, ou des idées, pas des concepts, mais des similitudes qui lui permettront de voir, qui lui permettront d'aller au-devant. Mais ce n'est pas en Dieu qu'il voit toutes choses. Alors, voyons la première objection. La réponse semble affirmative. Au sujet de ce passage d'Isaïe, prépare ta demeure, etc. La glose remarque, les prophètes peuvent lire dans le même livre de la préscience de Dieu où tout est écrit. Or, la préscience de Dieu, c'est son essence. Les prophètes voient donc l'essence même de Dieu. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est pas comme du tout à bien saisir comment les prophètes voient à travers le livre de vie. Hein. Alors, réponse. Les prophètes lisent dans le livre de la préscience de Dieu, pour autant que de cette préscience même de Dieu, la vérité se reflète dans l'esprit du prophète. Il y a comme une espèce de reflet, ça c'est très curieux. Hein. Vous savez, la théorie de Garrodi pour la connaissance, hein. La théorie marxiste pour la connaissance. L'intelligence est un reflet de la réalité. Nous avons tous vu ça quand on passe à Paris, n'est-ce pas, le petit pont, et qu'on regarde la cathédrale, et qu'on voit la cathédrale qui se reflète dans l'eau. C'est un miracle. C'est beau comme aujourd'hui. Alors on voit la cathédrale qui se reflète dans l'eau. C'est un reflet. Vous voyez la manière dont on conçoit la connaissance. La manière dont Garrodi conçoit la connaissance. Il veut expliquer la connaissance dans une perspective marxiste. Alors il dit c'est un reflet. Nous ne disons pas du tout que notre connaissance est un reflet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la connaissance prophétique, il y a un petit quelque chose comme ça. Les prophètes lisent dans le livre de la prescience de Dieu. Pour autant que cette science, cette prescience même de Dieu, pour autant que de cette prescience même de Dieu, la vérité se reflète dans l'esprit du prophète. Le prophète est comme un miroir dans lequel Dieu va pouvoir communiquer certaines similitudes. Alors, pour garantir, la connaissance fait qu'on est prophète du monde. Parce que c'est le reflet. Pour nous, nous ne disons pas du tout que la connaissance est un reflet. Pourquoi ? Parce que quand on connaît quelque chose, on le transpose. C'est pas la même chose du tout. Vous voyez, quand vous regardez à travers le petit fleuve, je ne sais pas comment il s'appelle, le petit ruisseau, pareil, la basilique dedans, il n'y a rien d'abstrait. C'est une représentation magnifique, admirable. La connaissance n'est pas comme ça. La connaissance implique l'abstraction. C'est ce que Gardi refuse. Il n'y a pas d'abstraction. Qui dit abstraction dit transformation. C'est une transformation quand de fait on connaît, on analyse. Et dès qu'on analyse, immédiatement c'est changé. Ça ne peut pas être autrement. Dès qu'on analyse, c'est changé. Donc la connaissance n'est pas un reflet, elle implique une abstraction. Pour Garodi, elle implique un reflet. Pour le prophète, il n'y a plus abstraction. Il reçoit de Dieu les spéties. Il reçoit de Dieu les images. Et donc, d'une certaine manière, son intelligence prophétique reflète le livre de la présence de Dieu. Alors, deuxième objection. Saint Augustin écrit, c'est dans cette éternelle vérité de laquelle toutes les réalités temporelles ont été faites que nous voyons par la vue de l'esprit la forme de notre être et de notre action. Or, parmi tous les hommes, ce sont les prophètes qui ont la plus haute connaissance des réalités divines. Ce sont donc eux surtout qui voient l'essence divine. Alors, réponse. On dit de l'homme qu'il voit dans la vérité première la première forme de son être. Donc il voit dans la propre forme de son être. On dit de l'homme qu'il voit dans la vérité première la forme propre de son être, en tant que la ressemblance de cette vérité première, lui, dans l'esprit humain. Et c'est ainsi que l'âme a le pouvoir de se connaître elle-même. C'est particulier. Exco anima ad et quod sim sapiens. Troisième vérité, troisième objection. C'est très curieux ce passage. Vous voyez, je crois. Vous voyez bien ce qui est dit. Hein. On dit que l'homme qui voit dans la vérité première la forme propre de son être, en tant que la ressemblance de cette vérité première, lui, dans l'esprit humain. C'est la parole de Dieu. Il illumine tout homme devant ce monde. Et c'est ainsi que l'âme a le pouvoir de se connaître elle-même. Saint Thomas n'a pas l'air de refuser ça. Et c'est très proche de l'illuminer Saint Augustin. Vous voyez ? Comme c'est proche de l'illuminer Saint Augustin. Exactement, donne sans réponse. Diciamo qua, prima veritate dicitur homo videre propriam formam, qua existit in quantum prime veritatis, similitudo refulget in mente humana, ex quo anima habet, quod se ipsam cognoscit. Alors, Saint Thomas, c'est curieux, hein, c'est très curieux ce texte. Si c'est uniquement pour la connaissance prophétique, tout tout à fait d'accord. Si c'est pour les autres connaissances, ce sera en contradiction avec tout ce que saint Thomas dit. Donc c'est pour la connaissance prophétique. Le prophète a ce privilège de connaître selon un mode particulier. Il ne connaît plus de façon abstraite. Troisième objection, les événements futurs contingents sont connus à l'avance par les prophètes selon l'immuable vérité. Or, ils ne sont tels qu'en Dieu lui-même. Les prophètes voient donc Dieu lui-même. Les événements futurs contingents sont en Dieu selon un mode, selon une vérité immuable. Or, Dieu peut donc imprimer dans l'esprit des prophètes une connaissance semblable, sans que pour cela les prophètes voient Dieu par essence. Oui, c'est pas très bien expliqué. C'est la question du reflet. C'est ça qui me frappe. C'est la question du reflet. On devient comme un miroir des connaissances de Dieu. Et le prophète lit. C'est un autre mode de connaissance. C'est tout à fait autre chose. C'est un mode de connaissance instrumental où on est en dépendance directe de l'info de Dieu et on reçoit de Dieu cette impression. C'est tout l'illuminisme de Saint-Augustin qui est repris pour le prophète. Que saint Augustin expliquait comme ça le point de vue de la connaissance. On est illuminé par la cause exemplaire, on est illuminé par la cause finale, ça nous permet de saisir quelque chose qui est en dehors de notre conditionnement habituel. Les événements futurs contingents sont en Dieu selon une vérité immuable. Dieu peut donc imprimer dans l'esprit des prophètes une connaissance semblable sans que pour ça les prophètes voient Dieu par essence. Donc Dieu a une connaissance des futurs contingents en lui, dans ses idées. Il peut la communiquer. Donc je crois que vous voyez bien. C'est des questions qui... Article 2. Dans la révélation prophétique, Dieu imprime-t-il dans l'esprit des prophètes de nouvelles images ou des idées des choses ou seulement une nouvelle lumière? Ça, c'est très intéressant. Que vous puissiez mieux comprendre votre instinct prophétique. Alors, voici le 7 contre 1. Le Seigneur dit dans Osée, je leur ai multiplié les visions, et grâce aux prophètes, on a reconnu ma ressemblance. Or, la multiplication des vérités ne se fait pas selon la lumière intelligible, qui est commune à toutes les visions prophétiques, mais seulement par la diversité des images et des idées, selon lesquels se fait aussi la ressemblance. Il semble donc que dans la vision prophétique sont imprimées de nouvelles images ou idées des réalités, et non pas seulement une lumière intelligible. Alors le corps de l'article va nous faire comprendre cela. D'après saint Augustin, la connaissance prophétique a surtout pour siège l'esprit. Cognitio prophetica, maxime ad mentem pertinent. Ad mentem. Or, au sujet de la connaissance de l'esprit humain, il y a deux choses à considérer. Le mode de réception et de représentation des réalités et le jugement sur les réalités représentées. Les réalités sont représentées à l'esprit humain par des idées ou species. Normalement, il est nécessaire que ces idées ou species passent par les sens, puis par l'imagination et aboutissent à l'intellect possible, ce que nous disions tout à l'heure. Vous voyez bien. Celui-ci est modifié par les fantasmes qu'éclaire l'intellect agent. Or, l'imagination ne fait pas que recevoir les formes des choses sensibles, telles qu'elles viennent des sens, mais elle subit aussi diverses transformations, soit par suite de modifications corporelles, comme il arrive dans le sommeil ou la folie, soit par une suite d'interventions de la raison qui dispose des fantasmes en vue de ce qu'il faut comprendre. Quand, en effet, on change l'ordre des mêmes lettres d'un mot, le sens diffère. De même aussi, si l'on dispose de diverses manières les fantasmes, il résulte dans l'intelligence des idées intelligibles différentes. Quant au jugement de l'esprit humain sur ces représentations, il dépend de la force de la lumière intellectuelle qui les éclaire. Or, par le don de prophétie, l'esprit humain est surélevé au-dessus de ses facultés naturelles quant aux deux éléments qu'on vient de dire. D'abord, quant au jugement, par l'influx d'une lumière intellectuelle. Ensuite, quant à la représentation des réalités qui se fait par...